Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'homme dans la souffrance. Et tout d'abord, je vous invite à la lecture d'un texte et qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et à partir du verset 40, où il est dit ceci: un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il le fut purifié. Et le deuxième texte, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, où nous lisons ceci, il est question de l'apôtre Paul. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La souffrance, on a dit de la souffrance qu'elle est une réalité aux mille visages. Il suffit d'ailleurs de relire les textes des évangiles pour découvrir que ces évangiles décrivent toutes sortes de visages, de personnes dans la souffrance. La souffrance touche l'homme dans son corps, mais elle atteint aussi dans toutes ses dimensions, dans ses dimensions psychologiques, relationnelles et aussi dans les dimensions spirituelles. Je le crois, chacun de nous pourrait parler d'expérience, car la souffrance fait partie de la vie, fait partie de notre vie, de la vie de nos familles. Alors, nous savons par l'Écriture que la souffrance est entrée dans l'histoire de l'humanité en même temps que le péché. Et quand on lit le texte de Genèse au chapitre 3, on découvre Adam et Ève dans la faute, dans le péché. Et on découvre avec le péché, la venue de la difficulté, des difficultés pour eux. Et depuis, ce sont les grossesses difficiles, les accouchements douloureux, le travail pénible, la sueur du visage, la maladie ou la mort. Ainsi, la souffrance est devenue partie intégrante de la vie de tout homme, de toute femme, de toute famille. Il nous faut tout d'abord affirmer que la maladie est toujours une épreuve. Dans le langage populaire, on dit que l'on tombe malade, ou on dit qu'il est tombé malade. Alors tomber, c'est perdre l'équilibre. Tomber malade, eh bien, c'est perdre l'équilibre au niveau de sa santé. Mais nous pouvons immédiatement ajouter que tomber, eh bien, ça fait mal, qu'en tombant, on peut se blesser et même se blesser sérieusement. Alors il nous faut dire que tomber malade est une expérience douloureuse, une expérience qui fait mal. Quand nous regardons les évangiles et que nous nous arrêtons avec le Seigneur Jésus le long des chemins, nous découvrons des hommes et des femmes qui ont mal. Et qui ont mal parce que atteints dans leur corps. Et nous découvrons que les disciples sont là et prêts à rabrouer, à rejeter, à condamner peut-être celui qui a mal. Mais nous regardons en même temps le Seigneur Jésus et nous découvrons que jamais il ne fait le moindre reproche à celui qui a mal, à celui qui souffre dans son corps et qui souffre dans son être intérieur. Et nous devons tirer leçon de la manière d'être et de faire du modèle par excellence qu'est le Seigneur Jésus. Avec la maladie, on entre dans un monde inhabituel. Le corps, notre propre corps, devient en quelque sorte un étranger. C'est lui qui dicte sa loi et qui dicte une loi qui nous apparaît souvent comme incompréhensible, voire insupportable. Quand on tombe malade, on découvre souvent la dépendance des médicaments, la dépendance à l'égard du corps, la dépendance aussi peut-être à l'égard du personnel médical, la dépendance peut-être au niveau des siens. Avec la maladie, on entre dans une vie inhabituelle et difficile. L'expérience de la maladie nous révèle fortement la fragilité fondamentale de notre vie humaine. La Bible nous dit qu'on est comme l'herbe des champs. Cette vérité est dite dans l'Ancien Testament et répétée sans cesse dans les psaumes, dans le prophète Ésaïe, dans les évangiles, dans l'épître de Pierre, une vérité à comprendre. Fragile je suis, fragile est ma vie humaine, je suis comme l'herbe des champs. Alors, quand on entre dans sa fragilité humaine, dans la maladie, dans la dépendance, dans les difficultés, certes, comme je le disais dimanche dernier, on est souvent accompagné par les nôtres, par des chrétiens, mais je crois qu'on est aussi très souvent seul, tout seul, devant l'inconnu, devant les limites de sa chair et les limites aussi de sa vie spirituelle. Alors, font surface des questions religieuses ou des questions humaines, pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait? À quoi bon la vie? Et alors que ces questions sont là et font surface dans notre vie, l'homme s'en va à la quête. Il s'en va à la quête de différentes choses. Il s'en va tout d'abord à la quête du sens de la maladie, mais il s'en va aussi à la quête de l'intégrité, de la dignité et aussi du miracle. J'aimerais parmi toutes les choses que l'on pourrait dire de l'homme souffrant, évoquer avec vous ces quêtes de l'homme. Et tout d'abord, la première quête, qui est la quête du sens. Cela est flagrant. Flagrant tout particulièrement chez les croyants, lorsqu'ils subissent les assauts de la maladie. On se forge une foi tout au long de notre existence. On se forge une foi en lisant l'Écriture, en lisant nos petites feuilles de calendrier, en lisant des livres avec toutes sortes de choses et parfois des choses extraordinaires. On se forge une foi, souvent en un Dieu protecteur, en un Dieu tout-puissant, et parfois certains, à l'écoute de textes, de l'Écriture ou de livres, de récits des uns et des autres, se forgent une foi particulière. Un Dieu récompensant sur la terre le comportement de l'homme ou punissant le comportement de l'homme. Et j'aimerais vous dire qu'il faut faire attention à cette foi que nous nous forgeons et qui peut-être n'est pas la foi telle que nous l'enseigne l'Écriture, la parole de notre Dieu. Et si donc ma foi est celle d'un Dieu punissant et récompensant les hommes selon leur comportement, la souffrance ne peut dans cette perspective-là n'être qu'inacceptable, incompréhensible. Et si c'est la foi que je me suis forgée, alors je risque une brouille avec Dieu. Et nous pourrions dire, et je peux le dire, que de brouille avec Dieu de la part d'hommes et de femmes, de chrétiens et de chrétiennes. Parce que ils se sont forgés un Dieu, le Dieu de leur imagination, et non pas le Dieu de l'Écriture. Il y a un très beau récit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, où les hommes interpellent le Seigneur Jésus. Qui a péché? L'aveugle ou ses parents? Et Jésus de répondre, ni l'un ni l'autre. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ainsi Jésus écarte ce que l'homme dit bien souvent, à savoir que le sens de la souffrance, c'est le comportement de l'homme, le péché de l'homme. Oh, cela pourrait l'être. Et si en plein hiver, je me mets à l'extérieur sans vêtements, sans rien sur mon dos, je risque une bonne pneumonie et ma faute peut retomber sur moi. Mais la souffrance en général, elle a une autre origine et son origine est là dans la faute première de l'homme Adam. Et je crois que dans notre quête du sens, il est important de réaliser que ce n'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce que l'homme a fait dès le départ et qui a amené, qui a fait surgir la souffrance et la maladie dans le monde. Souffrance des grossesses pour tous, sueur du travail pour tous, mais maladie également pour les uns et pour les autres. J'aimerais évoquer avec vous une deuxième quête, qui est la quête de l'intégrité. Quand le malade souffre des incapacités, des mauvais fonctionnements de son corps, il entrevoit en quelque sorte la guérison comme un retour au rythme, comme un retour à la puissance du moteur. À ses yeux, les soins, les traitements n'ont d'autre but que de réparer la machine, que de redonner à la pièce déficiente son état primitif, que tout reparte comme du neuf. C'est ce que l'on appelle la recherche de l'intégrité. Chercher à retrouver son intégrité est une quête digne de l'homme. Chercher à retrouver son intégrité est une quête digne du chrétien. Il y a autour de nous des hommes et des femmes, des croyants, et qui pensent que la seule quête juste est celle qui se vit dans la présence de Dieu, dans le cri devant le trône de la grâce. Mais quand nous regardons les textes de l'Écriture, il nous semble que cette quête-là, cette recherche d'intégrité en allant vers le médecin, en allant vers celui qui sait, est une quête tout à fait juste et tout à fait raisonnable. Quand nous regardons les souffrants le long du chemin et qui découvrent que Jésus passe, ils crient vers le Seigneur et réclament du Seigneur son intervention. Ils sont à la recherche de l'intégrité. Et si les disciples sont là prêts à rabrouer, à repousser, Jésus ne le fait pas. Il considère cette recherche d'intégrité comme juste. Il est important de ne pas renoncer, de ne pas prendre son parti. Il est normal pour le chrétien de chercher à retrouver son état antérieur, sa santé perdue. La troisième quête dont j'aimerais vous parler, c'est la quête de la dignité. Parfois, il nous faut accepter ce que l'on pourrait appeler le dysfonctionnement au niveau du corps. Certains, vous savez, ne plient jamais l'échine. Ils refusent le dysfonctionnement. Ils refusent de toute leur force le dysfonctionnement qui peut être dans leur vie, dans leur corps. Il reste en quelque sorte crispé sur un refus, sur le refus de ce qu'ils sont en train de vivre. Certains, et j'en ai rencontré en visitant bien des malades et des malades à l'hôpital, certains sont conscients de la contradiction dans laquelle ils sont plongés, mais le refus est là. L'apôtre Paul lui-même a connu le dysfonctionnement. Le texte biblique nous dit qu'il a supplié le Seigneur à plusieurs reprises. Et l'Esprit de Dieu l'a travaillé. L'Esprit de Dieu l'a travaillé de l'intérieur. Paul s'est abandonné. Il s'est abandonné aux avances de la douceur et de la tendresse de Dieu. Il est alors passé par le miracle d'une vraie guérison, le miracle de l'acceptation. « Ma grâce te suffit », lui a dit Dieu. Lui, l'apôtre, le grand, le plus grand des apôtres, l'apôtre de premier plan, eh bien, a eu besoin, et tout au long de sa vie, des soins de celui qui sait, du médecin. Alors, j'aimerais vous dire que consentir, cela n'équivaut pas à capituler, ni à rendre les armes, ni à perdre la guerre. Paul a consenti et il n'a pas capitulé. Il n'a pas rendu les armes ni perdu la guerre. Consentir, comme il l'a fait, c'est ouvrir les yeux, c'est laisser paraître au fond de son être une certitude intérieure, c'est s'abandonner, confiant au Seigneur. C'est trouver dans le Seigneur un appui, une force intime, une force qui vient d'en haut, qui vient de lui. Un tel consentement est une grâce d'en haut et l'expression visible de la vraie grandeur, de la vraie foi placée dans le Seigneur. La dignité est en fait ce parfum, ce rayonnement, cette grâce qui monte des profondeurs de l'être. La dignité est une quête. Quand le corps est atteint, l'homme essaie de cacher ce qui lui apparaît peut-être comme indigne, comme difficile. Mais quand l'homme, dans la foi, vit vraiment avec le Seigneur, il y a de belles choses qui arrivent. Je voudrais enfin évoquer avec vous la quête du miracle. Quand arrive la maladie, sous l'effet de l'angoisse, devant les dangers, devant les pressions. Alors, on pourrait dire qu'il y a une pression qui monte à l'intérieur. Et la tentation est forte. La tentation de céder à une logique aveugle. Les demandes de miracles, de prières, d'imposition des mains, d'onction d'huile. On a dit que le malheur précipite dans la prière. Et vous le savez très bien, dans votre vie personnelle et dans votre vie de famille, que le malheur nous précipite auprès du trône de la grâce. Et on pourrait dire que c'est chose juste que d'aller vers la prière. Mais souvent, quand il y a la pression, on essaie d'arracher la guérison à Dieu. Je voudrais vous dire que la foi ne peut faire l'impasse de la réalité de Dieu, de la réalité de la toute-puissance de Dieu, de cette réalité d'un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Mais la foi qui est simplement suspendue au miracle, suspendue au miracle attendu, cette foi-là risque de tomber comme un fruit altéré. Cette foi-là risque l'amertume qui succède à l'exaltation. Risque l'amertume lorsque le miracle ne vient pas. Et alors, j'ai les souvenirs de personnes, ou même dans notre contexte, de cette poursuite effrénée, de cette poursuite prière, onction d'huile, recherche, ici ou là, quelque part dans le pays ou même au loin, de celui qui aurait le pouvoir ou la puissance. Et cette foi-là est une foi plus mobilisée par l'exorcisme du malheur que par ce qui est essentiel, la recherche de la volonté de Dieu et le genou qui plie devant la grandeur du vrai Dieu. Ce dont nous avons besoin, et c'est de la vie vraie et qui vient d'en haut. Tout ceci étant dit, je voudrais affirmer que je crois en la prière de la foi, que je crois en l'imposition des mains et que je crois en l'onction d'huile. Trois gestes de l'Écriture. Le premier geste, la prière de la foi. Inutile de vous dire que le texte biblique nous invite à demander. Demandez, vous recevrez. C'est l'intercession, c'est la prière pour les autres. Demander et intercéder devant le trône de la grâce n'est que chose juste. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, il nous est dit que sans relâche, l'Église de Jérusalem prie pour Pierre qui est emprisonné. Et à un moment donné, le texte nous dit que un ange vient et va délivrer l'homme Pierre et lui dire « Viens !» Et ils arrivent devant la porte de fer de la prison. Et le texte de préciser, alors qu'ils arrivent devant cette porte de fer, voilà qu'elle s'ouvre et les laisse aller. Ainsi, la prière de la foi peut amener des délivrances fantastiques, des délivrances extraordinaires dans notre vie d'homme, dans notre vie de femme, dans notre vie de personne souffrante. Savez-vous, ce que nous raconte ce chapitre 12 des Actes des Apôtres. Vous le connaissez, ce chapitre 12? Je suis sûr que vous allez le relire tout à l'heure. Moi, il y en a qui le cherchent déjà pour savoir avant l'heure ce qu'il contient. Eh bien oui, il nous raconte cette délivrance extraordinaire. Mais vous savez ce qu'il nous raconte encore? C'est qu'il y a deux hommes dans le texte. Il y en a un qui s'appelle Pierre et l'autre qui s'appelle Jacques. À l'un, Dieu ouvre les portes de la prison et l'autre, c'est Jacques. Et vous savez ce qui arrive à Jacques? Dans le même chapitre, il passe par la mort, par l'épée des soldats. Comprenez-vous? Dans le même chapitre, il nous est raconté la délivrance miraculeuse et l'autre n'est pas délivré. Y a-t-il un qui a plus de foi et l'autre moins de foi? Y a-t-il une église et qui a prié pour l'un et qui n'a pas prié pour l'autre? Mais non, il y a dans le texte un Dieu souverain. Et je voudrais vous dire simplement qu'il n'y a pas de règle. Je crois en la prière de la foi, en l'homme, en l'Église qui se présente devant le trône de la grâce et qui obtient le signe de la miséricorde de Dieu, d'un Dieu qui intervient et qui fait grâce, mais parfois d'un Dieu qui agit bien autrement que ce dont que la manière que nous avions envisagé. Le deuxième geste biblique, c'est l'imposition des mains. C'est un geste qui est explicitement mentionné. Il s'inscrit, n'est-ce pas, dans les gestes accomplis par le Christ. L'imposition des mains est un geste symbolique, un geste chargé de sens. Il nous parle d'identification, il nous parle de bénédiction. Le geste en lui-même n'a aucune puissance, mais il est là et il est accompli. Quand je lis les textes des évangiles, je découvre que il n'y a pas de grande rencontre en disant « Venez à tel jour, à tel endroit, il y aura imposition des mains. » Sur le chemin de la vie du Seigneur Jésus ou des apôtres, il y a la rencontre de l'homme souffrant ou de l'homme dans le besoin. Et alors, simplement, sans rien de spectaculaire, la main se pose sur l'épaule, sur le visage, sur la tête de la personne. Plus tard, les apôtres ou ceux qui écrivent les textes bibliques disent, eh bien, Jésus, il a rencontré telle personne, aveugle, paralytique ou autre, et il a imposé les mains. C'était un geste tout simple, tout naturel, qui s'est effectué sur le chemin de la vie du Seigneur Jésus. Je crois que ce geste est encore un geste d'actualité. Je ne crois pas à l'imposition des mains comme un grand spectacle, comme quelque chose d'extraordinaire ou d'extravagant, où il faut ameuter le peuple de Dieu pour voir ce qui est en train de se vivre ou en train de se passer. Mais je crois qu'il est nécessaire de le vivre simplement. Permettez-moi de le dire en toute simplicité, Je crois que plus d'une personne, si elle réfléchit quelque peu, pourrait dire, tiens, mais c'est vrai, Gérard, quand il est passé dans ma chambre d'hôpital, à un moment donné, eh bien, on dit, on va prier ensemble. Puis ma main était sur leur épaule. Mais c'est quoi? Si quelqu'un raconte la visite, pourrait dire, eh bien, oui, à un moment donné, il y a eu une prière et puis il y a eu l'imposition des mains où la main s'est posée dessus pour demander au nom de Jésus, dans la communion du Saint-Esprit, et qu'il y ait de la part de Dieu hein, quelque chose de fort qui se passe dans une vie. Alors, l'imposition des mains, on n'est pas tous appelés à imposer les mains. C'est un acte qui se fait au nom du Seigneur, mais au nom de l'Église aussi, du Seigneur, en tant que responsable. Et je pense que c'est une nécessité que de vivre dans la simplicité ces choses-là. Et aussi dans cette foi en un Dieu souverain qui fera avec cet acte-là ce que Dieu veut faire dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Un dernier mot sur le troisième geste biblique qui est celui de l'onction d'huile. Deux textes seulement dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, nous parlent de l'onction d'huile. Le premier, c'est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 13, une invitation aux apôtres de pratiquer cet acte-là. Et le deuxième texte, c'est celui de Jacques 5, qui est beaucoup plus connu. L'onction d'huile est un geste symbolique comme le baptême, la scène ou l'imposition des mains. C'est aussi un geste chargé de sens. C'est un geste à la fois ordonné par le Seigneur et ordonné par l'Écriture. La particularité et de l'onction d'huile, c'est que c'est le malade qui demande. C'est le malade qui appelle. Et ce malade-là est un des membres de l'Église de Jésus-Christ. Alors que l'imposition des mains, ce n'est pas le malade qui demande, mais c'est un acte qui est fait de la part de Dieu. Alors, il est dit dans ce texte de Jacques 5, si quelqu'un est malade dans l'asthénie, dans une fatigue, dans des problèmes qui durent et perdurent, qu'il appelle les anciens de l'Église. Alors, les anciens de l'Église vont venir et pratiquer ce geste-là. Il est entouré de certaines choses importantes. Il est entouré d'un temps où on parle, où on confesse son péché. Et le texte nous dit, si le malade a péché, il lui sera pardonné. Et il y a bien un si, montrant que la maladie peut avoir pour origine une faute, mais que la maladie peut très bien être simplement d'une origine générale de cette souffrance qui est dans le monde. Et il est utilisé trois verbes à ce moment-là. Il est dit que Dieu sauve, Dieu relève et Dieu pardonne. Guérison physique, si Dieu le veut. Guérison spirituelle, certainement. Alors que Dieu relève, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et c'est une victoire extraordinaire. Mais là encore, en disant ces mots, je vous dis et je vous redis, Dieu est souverain. Il m'est arrivé à plusieurs reprises le long de mon ministère de pratiquer ce geste-là. J'ai le souvenir, permettez-moi de parler de choses qui sont faites un petit peu dans le silence, sans qu'on en ait fait du spectacle, mais j'ai le souvenir de Madame Nègre allongée sur son lit, qui ne pouvait bouger que ses doigts, les doigts d'une main, et qui nous disait, et ses difficultés, qui nous disait, comprenez, quand je suis seule à la maison, une seule mouche qui vient, qui se met sur mon nez, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est de crier pour qu'elle s'envole. Et puis, le souvenir d'un Dieu grand qui est intervenu en grâce dans sa vie, qui a permis à cette personne qui ne pouvait pas bouger depuis des années de pouvoir à nouveau se lever, d'aller, même si elle a allé avec difficulté, mais de reprendre ce chemin. J'ai un autre souvenir que vous avez pour certains en commun avec moi, et j'ose le dire, c'est Huguette. Alors, une femme jeune, 28 ans à l'époque, le cancer, chose difficile. Et puis, de découvrir les cris vers Dieu et de découvrir qu'on a crié ensemble vers le Seigneur. Ensemble, on a été vers l'onction d'huile. On a vécu des temps très forts et très beaux. Dans un cas, Dieu a donné. Et dans l'autre, Dieu n'a pas donné. Vous me permettez de vous dire toutes ces choses avec tout mon amour. Je sais, oui, je sais que certains souffrent et souffrent très fortement. Mais je voudrais vous dire à chacun, ensemble, les yeux vers le Seigneur, dans le courage et avec cette certitude que Dieu ne nous laisse jamais et que s'il permet un chemin ou un autre chemin, qu'il est là, toujours présent, et il veut nous donner la force d'une vie belle, d'une vie de victoire. Amen.